I'm Mr. Bilbo Baggins. I've lost the dwarves and I've lost the wizard and I don't know where I am.
L'histoire du Seigneur des Anneaux, du roman aux adaptations.
Bonjour, vous êtes avec Jean-Adolphe Turlin sur Radio Grand Ciel pour parler des adaptations de l'œuvre de Tolkien. Dès sa publication en 1954 et 1955, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien stimule l'imagination des lecteurs et inspire la création artistique. C'est en effet un roman d'une grande puissance évocatrice, et dont le récit, écrit avec un mélange d'élégance et d'archaïsme, exprime de la force et de la densité. Très tôt, de nombreux artistes prennent plumes et pinceaux et tentent de donner une forme visuelle à l'univers de J.R.R. Tolkien. Une génération de jeunes musiciens est également inspirée par le roman. Et très vite, face à son succès, le monde du cinéma fait des œillades à Tolkien. Dès juin 1957, à peine 2 ans après la publication du Retour du Roi, le 3e tome du Seigneur des Anneaux, Tolkien reçoit une première proposition pour une adaptation du roman en dessin animé. Cette première proposition n'est que le début d'une longue série. Le premier projet sérieux d'adaptation cinématographique remonte donc à 1957 et prend forme au début de l'année 1958. Ce projet est piloté par Forrest Ackerman, un auteur de science-fiction, producteur de cinéma et futur créateur du personnage de Vampirella. Ackerman, qui rencontre Tolkien chez lui en septembre 1957 pour lui exposer en personne son projet, a utilisé les services d'un autre auteur, Morton Grady Zimmerman, pour un premier jet d'un scénario qu'il soumet à Tolkien et à son éditeur. Mais après une lecture attentive, le scénario déplaît fortement à l'écrivain. Dans une longue lettre d'une quinzaine de pages à Ackerman, Tolkien expose tous les points de désaccord, très nombreux, avec la proposition qui lui est faite.
J'ai enfin achevé mon commentaire sur le scénario. Qu'il soit long et détaillé constituera une preuve, je pense, de mon intérêt pour cette question. Quelques-unes au moins des choses que j'ai dites ou suggérées seront peut-être acceptables, ou même utiles, ou du moins intéressantes. J'espère vivement que quelqu'un prendra la peine de les lire. Si Zimmerman ou d'autres les lisent, ils pourront être irrités ou blessés par le ton d'un certain nombre de mes critiques. Si c'est le cas, j'en serai désolé, mais pas surpris. Mais je leur demanderai de faire un effort d'imagination, afin de comprendre l'irritation, et parfois le ressentiment, d'un auteur qui s'aperçoit de plus en plus nettement au fil de la lecture que son œuvre est traitée de manière apparemment négligente d'une façon générale, parfois de manière imprudente, et sans indication manifeste que l'on ait compris de quoi il retourne.
Tolkien désapprouve une multitude de points qui concernent les changements entre son texte et le scénario, la contraction temporelle de l'histoire, la présence des aigles à de nombreuses reprises dans la trame du scénario, le rôle dénaturé des cavaliers noirs, l'apparence des gobelins, l'interimbrication entre deux actions principales concernant les héros, la ridiculisation systématique des hobbits et la façon dont meurt Saruman. Il critique également plusieurs points de fond. Pour lui, l'ensemble fait trop conte de fées, et c'est un point qui lui tient à cœur. Il considère également qu'il ne peut y avoir de différence dans la narration, même en passant d'un média à un autre. Prendre en compte le principe d'une différence empêche de percevoir où se situe le cœur de l'œuvre originale. Par ailleurs, non satisfait de la proposition financière qui lui est faite, Tolkien refuse le projet. Mais si les négociations avec Ackerman échouent, les propositions continuent d'arriver. En accord avec son éditeur, Tolkien se fixe une ligne de conduite simple. Les propositions doivent respecter le texte et l'esprit du roman, ou alors les bénéfices financiers doivent largement compenser. Finalement, en 1969, Tolkien vend les droits d'adaptation et de création de produits dérivés du Hobbit et du Seigneur des Anneaux à la célèbre compagnie de production américaine United Artists. À la même époque, les Beatles semblent être intéressés par une adaptation du Seigneur des Anneaux dans laquelle ils envisagent d'avoir les premiers rôles. Le réalisateur Stanley Kubrick, qui vient d'obtenir un immense succès avec 2001 l'Odyssée de l'espace, est semble-t-il approché par John Lennon, un des quatre Beatles, qui souhaite l'associer à ce projet. Mais le réalisateur déclare à la presse à cette époque que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre inadaptable. Ce projet est donc à son tour abandonné. Inadaptable au cinéma. C'est la réputation qui va accompagner Le Seigneur des Anneaux pendant des années. Pourtant, des projets se concrétisent à partir des années 70. United Artists confie l'adaptation du Seigneur des Anneaux pour un seul film au Britannique John Boorman. Mais le projet de celui-ci, trop sombre, trop violent au goût des producteurs, s'éloigne complètement de l'histoire et se révèle trop coûteux. Boorman se tourne alors vers un autre film qui sera un grand succès en 1973, Délivrance, avec Burt Reynolds. Thank you. Si les critiques de cinéma ont repéré de nombreuses similitudes entre Deliverance et un autre film qui s'appelle La Source, d'Ingmar Bergman, la descente chaotique et oppressante en canoë de la rivière Chattooga, en Caroline du Nord, par les héros du film, n'est pas sans rappeler, par certains aspects, la descente de la rivière Anduin, par Frodon et ses compagnons, dans Le Seigneur des Anneaux. Après Boorman, c'est à Ralph Bakshi, un réalisateur de dessins animés pour adultes, que United Artists fait confiance. Ralph Bakshi cherche à être plus fidèle au roman, mais il met des années à stabiliser son financement, car son projet est de faire 3 films. Il s'associe à Saul Zenz, le célèbre producteur de « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Milos Forman en 1975, avec Jack Nicholson. Saul Zenz acquiert finalement les droits détenus par United Artists et crée la société de production Tolkien Enterprise pour gérer ses droits dont il pressent, 3 ans après la mort de Tolkien, l'immense rentabilité. Mais malgré ses opérations juridico-financières, le film réalisé par Ralph Bakshi sort en 1978 sans remporter le succès escompté. Mélange expérimental d'animation et de prise de vue réelle, il n'adapte en fait que la moitié du roman, comme prévu par Bakshi, qui espère toujours réaliser ses 3 films. Mais les critiques sont perplexes, et la démarche avant-gardiste de Bakshi n'est comprise ni par le public, ni par les producteurs. United Artists et Saul Zenz préfèrent retirer leurs billes. Il n'y aura donc qu'un seul film, et le projet de Ralph Bakshi restera inachevé. Le film a pourtant été diffusé un peu partout dans le monde, rapportant, en fin de compte, 5 à 6 fois plus qu'il n'a coûté. Parmi les millions de spectateurs à travers le monde qui ont vu ce film, se trouve un certain Peter Jackson, un jeune étudiant néo-zélandais. Quelques mois avant la sortie du film de Bakshi, les producteurs de dessins animés Arthur Rankin Jr. et Jules Bass, associés à des dessinateurs japonais, sortent une adaptation du Hobbit pour la télévision américaine. Ce dessin animé est un succès. L'équipe récidive en 1980 avec un autre dessin animé, Le Retour du Roi, qui est à la fois une adaptation simplifiée de la dernière partie du Seigneur des Anneaux et une suite au dessin animé du Hobbit. Mais de fait, dans l'esprit du public, il achève le Seigneur des Anneaux tronqué de Ralph Bakshi. Même si le style, les univers, la trame et le public visé par les deux dessins animés sont très différents. Il faut attendre 1985 pour qu'une adaptation en prise de vue réelle d'une œuvre de Tolkien voit enfin le jour. Il s'agit d'un film russe, consacré au roman Le Hobbit. Fait avec très peu de moyens, ce film reste inconnu en Occident jusqu'au milieu des années 2000. C'est également le cas de Hobbit It, un téléfilm finlandais de 1993 en plusieurs épisodes qui tente audacieusement d'adapter Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. La même année, 1993, sort Jurassic Park de Steven Spielberg. Grâce aux progrès en termes d'effets spéciaux que connaît l'industrie cinématographique avec ce film, certains studios se sentent prêts à reprendre le projet d'adapter Le Seigneur des Anneaux. En 1995, les choses sérieuses commencent. Pas moins de deux scripts circulent à Hollywood. Les studios Miramax, qui détiennent un droit d'option sur l'adaptation du Seigneur des Anneaux, sont les plus rapides à monter un projet. Ils acceptent le script qu'ils ont commandé à un jeune couple de réalisateurs néo-zélandais, Fran Walsh et Peter Jackson. Après de nombreux et obscurs rebondissements dont Hollywood a le secret, c'est finalement New Line Cinema, un studio derrière lequel se trouve la toute-puissante Time Warner, qui produit le projet de Walsh et de Jackson, qui sera finalement une trilogie cinématographique. Les films sortiront successivement en 2001, 2002 et 2003 et seront d'immenses succès. Mais si la prouesse cinématographique, malgré les limites du scénario, est remarquable, l'adaptation en elle-même est décevante. Peter Jackson sacrifie en effet des pans entiers de l'histoire et ajoute des successions de scènes inventées pour l'occasion, mais sans véritable plus-value pour le récit. Par ailleurs, les points que Tolkien avait autrefois critiqués en lisant le scénario du projet d'Ackerman en 1958 se retrouvent pour la plupart inclus dans la trilogie de Peter Jackson. Avec l'adaptation du Hobbit, un projet qui a connu d'incroyables rebondissements juridiques et financiers durant son développement entre 2009 et 2012, les défauts de la trilogie cinématographique du Seigneur des Anneaux sont amplifiés. Et tant le scénario du film que le respect du premier roman de Tolkien sont malheureusement sacrifiés au profit d'une surabondance d'effets spéciaux numériques et d'ajouts superficiels.
Misty mountains cold, dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten.
Contrairement aux trois films du Seigneur des Anneaux qui avaient majoritairement séduit les lecteurs de Tolkien, Le Hobbit, qui est également présenté en trois films, crée un début de polémique sur les intentions de Peter Jackson. Malgré cela, les deux premiers films de cette nouvelle trilogie, sortis en 2012 et 2013, rapportent à la Warner plus d'un milliard de dollars de recettes. Dans une interview au journal français Le Figaro en décembre 2013, le réalisateur néo-zélandais revient sur ce début de polémique avec franchise, cynisme et réalisme.
And the Oscar goes to Peter Jackson, Lord of the Rings.
Écoutez, ce business n'a absolument rien de romantique. La Warner a investi d'énormes sommes dans ses films. Et l'une de mes responsabilités est de faire en sorte que le studio récupère sa mise. J'ai énormément de respect et d'amour pour l'œuvre de Tolkien. Mais en fin de compte, l'opinion des fans ne m'influence pas. Un film n'est pas un livre. Et, en tant que cinéaste, mon approche narrative est différente.
Loin des adaptations hollywoodiennes à grand spectacle, d'autres types d'adaptations moins connues ont eu un certain succès en Angleterre. Les adaptations radiophoniques. La première d'entre elles date de 1956. Elle a été produite en 13 épisodes par la BBC pour une adaptation du Seigneur des Anneaux, puis en 6 épisodes supplémentaires pour Le Hobbit. Malheureusement, seules les bandes d'enregistrement du Hobbit ont été conservées par la BBC. Elles permettent de découvrir une adaptation très fidèle au roman et à l'univers de Tolkien en général. La BBC récidive en 1981 avec cette fois une adaptation du Seigneur des Anneaux en 26 épisodes. Encore une fois, l'adaptation est fidèle au texte de Tolkien. Un des scénaristes de ce feuilleton radio est le jeune Brian Sibley, qui sera connu plus tard comme un spécialiste de l'œuvre de Tolkien, écrivant plusieurs livres à ce sujet. Il sera également l'auteur en 2006 d'une biographie complaisante de Peter Jackson. Parmi les acteurs qui prêtent leur voix au personnage, on peut citer Peter Woodthorpe, qui a joué Gollum à la fois dans l'adaptation radio de la BBC et dans le dessin animé de Ralph Bakshi 3 ans plus tôt. On peut également citer Ian Holm, qui joue Frodo à la radio et qui jouera Bilbo 20 ans plus tard pour Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Cette adaptation radio a été éditée ultérieurement dans un coffret de 3 CD par la BBC.
My dear people.
Oh dear, I think Bill Bear's about to make a speech.
My dear Bagginses and Boffins. And my dear Tooks and Bradley Bucks and Grubs and Chubs.
Yes.
And Burrowses and Hornblowers. Bulgers, Brace Girdles, Good Bodies. Brockhouses.
Oh, yeah.
And Proudfoots.
Proudfeet!
Proudfoots! Also, my good Sackville Bagginses that I welcome back at last to Bag End.
Thank you.
Now, while you're filling up the corners, as we hobbits put it, I hope you'll permit me a few words. Today is my 111th birthday. I'm 111 today.
Des nombreuses adaptations de l'univers de Tolkien, celles de Peter Jackson feront évidemment date. Plébiscitées par un public international nombreux et varié, elles n'en sont pas moins soumises aux lois du système hollywoodien, avec une obligation de réussite qui passe de plus en plus par les cases de la simplification, du spectaculaire, ou de l'humour facile et dégradé, aux antipodes de la réalité des romans. Et les coulisses des deux trilogies de Peter Jackson ne sont guère reluisantes, émaillées de procès fleuves entre familles Tolkien et producteurs, ou entre producteurs et studios, et même entre Peter Jackson et ses associés, avec pour enjeu des centaines de millions de dollars. La conséquence de ce climat, c'est que si les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit sont détenus par Hollywood, ceux du Silmarillion et des autres textes de Tolkien restent à sa famille et ne sont pas à vendre. Le public n'est donc pas prêt de découvrir un jour une adaptation du Silmarillion au cinéma. En fin de compte, toutes ces adaptations depuis 50 ans auront au moins eu à chaque fois le mérite d'apporter un nouveau public à l'œuvre de Tolkien et de faire découvrir sa richesse littéraire, esthétique et philosophique, ce qu'aucune adaptation à ce jour n'a été en capacité de rendre.
The castle won, the ring.